Bonjour à tout le monde. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour aujourd'hui, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles pour faire une lecture dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 26. Je répète, le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 26. C'est là que va se baser notre prédication d'aujourd'hui. Et si possible, je vais demander à quelqu'un, à Jessé, de nous faire cette lecture pendant que nous-mêmes nous lisons dans nos Bibles. Merci.
Je lis la parole de l'Éternel. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 26. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. Amen.
Amen. Soyez bénis. Alors, c'est ce texte que nous allons aujourd'hui méditer pour comprendre pourquoi le thème là que je vous ai lu, je vous ai dit, il y a encore une raison d'espérer. Comment on va relier à ce message, à ce texte d'aujourd'hui. Mais avant, j'aimerais aussi donner un peu d'historique ou bien vous introduire par rapport à trois choses parce que c'est des choses qui vont nous aider à comprendre le message. D'abord, je vais vous parler un peu du prophète Jérémie. Je sais que vous le connaissez bien. Je vais aussi parler du peuple d'Israël et aussi la chute de Juda parce que c'est trois choses sont reliées à ce texte que nous venons de lire dans Lamentation de Jérémie. Vous le savez bien, Jérémie a été un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Il est parmi les grands vraiment prophètes que la Bible nous cite. Et il a été choisi par Dieu lui-même. Si vous lisez dans Jérémie 1, verset 4, à 9, vous allez voir l'appel de Jérémie. Vous allez voir Dieu qui appelle lui-même Jérémie, lui disant qu'il a besoin que ce dernier soit son porte-parole. Peut-être je vais vous citer quelques versets qu'on ne va pas lire, mais à la maison, vous pouvez prendre un petit moment pour bien comprendre, parce que si nous lisons chaque verset que je vous dis, peut-être ça va prendre un peu plus de temps. Mais si vous lisez dans Jérémie 1, verset 4 à 9, vous allez voir, c'est l'appel de Jérémie pour devenir porte-parole de Dieu. Alors, il a été appelé pour être porte-parole de Dieu pour le peuple d'Israël, spécialement pour le peuple d'Israël, même s'il y avait aussi d'autres nations tout autour, mais son appel était vraiment spécial au peuple d'Israël. Souvenez-vous, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui avait été mis à part par Dieu pour que le monde ou bien d'autres nations voient ça comme exemple, pour que d'autres nations apprennent qui est Dieu, comment servir l'Éternel. À l'exemple de ce peuple qui avait été choisi. Alors, choisissant, Dieu espérait que ce peuple allait l'obéir, que ce peuple allait l'adorer tel qu'il voudrait, il voulait. Il voulait qu'il le fasse. Malheureusement, comme on va le voir, ou bien comme vous le connaissez, à plusieurs reprises, ce peuple a vraiment eu des échecs. Ce peuple n'a pas pu respecter ce que Dieu s'attendait d'eux. Et c'est pour cela que nous allons voir aussi la chute de Juda. La chute de Juda, c'est le résultat de la désobéissance du peuple d'Israël. C'est pourquoi j'ai dit que ces trois choses sont reliées. Alors, tout au long du livre de Jérémie, vous allez lire les détails du message de Jérémie. Vous allez voir depuis son appel, vous allez voir que à chaque moment, Dieu envoyait lui donner un message pour transmettre au peuple d'Israël. Quand je dis peuple d'Israël, il faut inclure aussi les rois qui ont été à la tête du peuple d'Israël, parce que c'était en premier le roi, et puis il y avait tout autour des prophètes, des sacrificateurs, tout ce monde-là. Jérémie avait un message qui devait les transmettre au moment voulu, au moment de Dieu. C'est vrai que du temps de Jérémie aussi, il y a eu d'autres prophètes, mais je parle de Jérémie parce que c'est lui qui nous concerne pour aujourd'hui. Sous le règne de Josias, toujours, Josias a été aussi le roi d'Israël, Jérémie a fait son travail. Il a prophétisé, il a transmis le message. Josias est passé. Il y a eu Joachim. Joachim est passé. Il y a eu Sédécias. Lui aussi, il a passé. Mais nous allons voir que la chute qu'on va voir, ça a eu lieu du temps de son roi, Sédécias. Donc, il n'a pas cessé d'avertir le peuple de Dieu. Le prophète Jérémie, il n'hésitait jamais à transmettre le message tel que le Seigneur Dieu lui avait ordonné de le faire. Il a bien fait son travail. Mais malheureusement, le peuple n'a pas pu respecter toutes les consignes, n'a pas pu obéir à ce que le prophète, au message du prophète, bien sûr, au message de Dieu. Dans les messages, il y avait le message d'avertissement souvent, parce que Dieu avertissait son peuple à travers la prophétie. Il y avait le message aussi, il y avait des promesses, non seulement que Dieu avertissait son peuple, mais il leur donnait aussi des promesses. Tout ça à travers le prophète Jérémie. Mais le peuple n'a jamais changé de comportement. Depuis le début jusqu'à la fin, ils n'ont jamais changé de comportement. Et la désobéissance a conduit Dieu à délivrer son peuple dans les mains de leurs ennemis. Si vous lisez ce texte, ce livre, vous allez voir que Dieu, au début, donnait beaucoup de promesses. Je vous ferai ça. Je vais vous protéger contre vos ennemis. Je vous ferai ça. Mais toujours, il y avait des conditions aussi. Ce que les autres ne comprenaient pas, c'est qu'il y avait des conditions à remplir pour que Dieu aussi fasse ses promesses. Mais le jour J arrive où Dieu ne pouvait plus patienter à cause de leur désobéissance. Je vais demander aussi à Jisré de nourrir un peu pour comprendre le contexte de la chute de Jida, pourquoi cela est arrivé, quelle a été la cause immédiate. Je vais demander à Jisré aussi de lire, ça va être un peu long, mais j'ai voulu de lire pour comprendre vraiment c'était quoi le contexte dans lequel cela est arrivé. C'est Jérémie 39, 1 à 10. Jérémie 39, 1 à 10.
Je lis la parole de l'Éternel. La 9e année du règne de Sédécias, roi de Juda, au 10e mois, Nabucodonosor, roi de Babylone, vint avec son armée à Jérusalem et il en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Tout l'état-major du roi de Babylone entra dans la ville et s'installa à la porte centrale. C'était Nergal, Saretser, Sangar-Nebou, Sarsekim, le chef des officiers de la cour. Nergal, Saretser, le général en chef et tous les autres officiers supérieurs du roi de Babylone. Lorsque Sédésias, roi de Juda, et tous les soldats virent cela, ils s'enfuirent et s'échappèrent de la ville de nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux remparts, et sortirent sur le chemin de la vallée du Jourdain. Mais l'armée des Chaldéens se lança à leur poursuite et rattrapa Sédésias dans la plaine de Jéricho. Ils le firent prisonnier et l'amenèrent à Nabucodonosor, roi de Babylone, à Ribla dans le pays de Hamath. Celui-ci prononça son jugement contre lui. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sézias sous les yeux de leur père. Il fit aussi égorger tous les notables de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédésias et lui fit lier avec une double chaîne de bronze pour le déporter à Babylone. Les Chaldéens mirent le feu au palais royal et aux maisons des particuliers et ils démantelèrent les remparts de la ville. Nebuzaradan, chef de la garde royale, déporta à Babylone le reste de la population qui était demeurée dans la ville, ceux qui s'étaient rendus déjà à Nabucodonosor et ce qui restait du peuple. Mais il laissa dans le pays de Juda une partie des pauvres de la population, des gens qui ne possédaient pas de biens, et il leur donna alors des vignes et des champs.
Amen. Encore pour compléter, je te demande d'aller aussi dans 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36.
36.
Ouais, on va aller au verset, à partir du verset 13.
De plus, il se révolta contre Nabucodonosor, qui lui avait fait prêter un serment de loyauté au nom de Dieu. Au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël, il s'obstina dans sa révolte contre lui et lui ferma son cœur. De même, tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent les pires infidélités en se livrant aux mêmes pratiques abominables que les nations païennes. Ils profanèrent le temple de l'Éternel dont ils avaient fait un lieu saint à Jérusalem.
Alors, je voudrais juste compléter le message parce que là, le message qu'il venait de nous lire, c'était la chute proprement dite. Mais je voulais aussi souligner la cause de cette chute. Vous comprenez que le peuple de Dieu, d'Israël, ils avaient fait des choses abominables. À partir des sacrificateurs jusqu'au bas niveau, tout le monde a été infidèle. Et Dieu ne pouvait plus supporter cette abomination, cette infidélité. Il a alors délivré son peuple dans les mains des Babyloniens, comme Jésus vient de nous le lire. Ils ont le roi à partir du roi. Ils ont été tués. Vraiment, la majorité ont été tués. Le roi et ses enfants et son armée, des sacrificateurs, tout le monde est tombé dans les mains des Babyloniens. Et la Bible nous dit qu'ils ont seulement laissé un petit peuple pauvre qui a cultivé les champs en Juda. Sinon, le reste ceux qui ne sont pas morts, a été déporté en Babylone. Si vous vous rappelez la fois passée aussi, je vous ai parlé de trois jeunes là, Daniel, Shadrach, Meshach. C'est à ce moment qu'ils étaient aussi déportés. C'est à ce moment précis. Donc, pour vous dire que le roi, non seulement qu'il a tué, mais il a détruit, même le temple de Dieu a été détruit, il a fait tomber les murailles, rien n'est resté vraiment en Juda. Alors, le prophète Jérémie qui suivait la scène depuis le début jusqu'à la fin, il faut dire que aussi Jérémie a été épargné par Nebuchadnezzar. C'est étrange, mais je trouve ça aussi. Quand je lisais ça, j'ai dit, oui, quand Dieu t'a mis à quelque part pour une raison, même si tout le monde meurt, même s'il y arrive n'importe quoi, mais toi, tu vas rester parce que tu gardes un message, tu gardes une mission à toi. Amen. Alors, le prophète Jérémie a été épargné alors que tout le monde, tous les autres étaient morts. Et comme il voyait la scène, il voyait ce qui s'est passé, comment Dieu a averti son peuple, comment le peuple s'est enfoncé, je dirais, de plus dans le péché, comment le peuple ne pouvait pas se repentir. Et il a vu comment Dieu les a livrés dans les mains de leurs ennemis. Il a vu aussi comment le temple de Dieu a été démoli. Il a vu tout. Et c'est pour cela qu'il s'est mis à la place de Juda. Le livre de Lamentation de Jérémie, c'est pas lui-même qui parle, mais il parle comme si c'est Juda Il parle au nom de JDE, si je pourrais dire ainsi. Tout ce qu'il fait, il essaie de personnaliser parce qu'il a vécu la situation, il a vu tout ce qui s'est passé. À la place de Jida, il s'est mis à la place pour raconter ce qui est arrivé, pour raconter la misère que vivait Jida après la chute. Donc, si vous lisez Lamentation, c'est 4 ou 5 chapitres, vous allez voir du premier jusqu'à la fin. Ce n'est que des plaintes, c'est des pleurs. Jérémie commence en disant que Jida est comme une veuve qui a été abandonnée. Parce que la ville, il avait été abandonné. Il n'y avait rien qui restait, comme on a vu. Il y avait seulement des petits peuples, des petits paysans qui ne savaient quoi faire, qui ne pouvaient pas vraiment relever la ville. Et même après, ils ont invité, je dis, son peuple, ce petit peuple qui était resté à Jida, ils ont invité Jérémie de leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, pourquoi ils sont restés là-bas. Parce qu'ils ne savaient pas vraiment quoi faire pour au moins démarrer pour la vie, pour que la ville de Jida retrouve, je dirais, sa vie normale. Donc, rien n'était resté. Et c'est pour cela que Jérémie pleurait à travers la poésie, à travers son livre de Lamentation. Il se demandait pourquoi tout cela est arrivé. Même le peuple qui auparavant était ami de Dieu, il se demandait comment Dieu a changé. Alors que Dieu lui promettait de bonnes choses. Alors que Dieu lui promettait de les préserver contre leurs ennemis. Mais il se demandait qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu nous livre d'armée de nos ennemis. Donc, plein de questions, plein de plaintes. Et d'ailleurs, le livre hébraïque, lui, il appelle son livre, ou bien ses propos de Jérémie, ils appellent ça comment? Donc, ce n'est dans le livre hébraïque, ce n'est pas lamentation, on ne parle pas lamentation de Jérémie, il parle seulement comment. Donc, comment? Pour simplement montrer que le peuple se demandait, donc se posait des questions. Comment terre est arrivée? Comment? Donc, c'est pour cela que j'imagine que dans le livre hébraïque, ils ont simplifié tout le message, toutes les lamentations dans un seul mot. Comment cela est arrivé? Alors, nous avons lu vers la fin ou bien au milieu du livre de Lamentation. C'est vrai, Jérémie avait tout raconté. Il avait vraiment raconté comment ils sont ça humiliés, Juda est humilié, n'est plus rien. Il est anéanti jusqu'au bas niveau. Mais là où nous avons lu, comme j'ai intitulé, j'ai donné le titre d'aujourd'hui. J'ai dit, il y a encore une raison d'espérer. Vers le chapitre 2, pardon, vers le troisième chapitre, Juda ou Jérémie se réalise. Il regarde après tout ce qui s'est passé, après cette chute extraordinaire, lui-même il se réalise, il dit, mais notre Dieu, même si tout cela est arrivé, mais il y a encore des raisons. On ne doit pas perdre l'espoir. On ne doit pas perdre la confiance en notre Dieu. Écoute ce qu'il a dit au verset 21. Mais, quand on dit mais, c'est-à-dire qu'il va maintenant dire le contraire de ce qu'il disait avant. C'est comme une opposition. Il va opposer ses propos par son message. Mais voici ce que je vais me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Amen. Malgré tout ce qui est arrivé, malgré la chute, malgré la mort du roi et ses enfants, malgré la déportation, malgré la démolition du temple, mais les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Amen. Amen. Jérémie trouve encore une raison d'espérer. Il trouve que en Dieu, tout n'est pas fini. Que Dieu a toujours amour à son peuple. Même si il a permis que cela arrive, mais qu'il est amour. Vous savez, quand nous punissons nos enfants, ce n'est pas parce qu'on n'a plus, on les aime plus, mais c'est pour qu'ils se remettent, qu'ils reviennent dans la bonne voie. Et c'est nous-mêmes après qui vont aller comment dirais-je, les calmer. Tu la frappes ou bien tu la punis, je ne sais pas, autrement, tu lui donnes une punition, mais par après, tu vas lui consoler. Alors c'est pour cela que Jérémie disait, oui, il y a eu tous ces événements, toutes ces tragédies, nous avons souffert, notre ville est vide, il n'y a rien, mais il y a l'amour de Dieu, la bonté de l'Éternel est là encore. Amen. Il n'est pas au bout de son amour. Pour dire, l'amour de Dieu n'est pas fini. Il a encore l'amour pour nous. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère à lui. Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Amen. Amen. Malgré les lamentations, Jérémie finit à se remettre. Il finit à se rappeler quelque chose, que l'amour de Dieu est là, que Dieu les aime. Peut-être il est parti dans le passé, il a réalisé comment le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Donc, il a fait un long voyage de tout ce que le peuple a traversé pour retrouver encore la bonté de l'Éternel, pour voir qu'il y a encore d'espoir, pour voir que l'amour de Dieu n'est pas fini pour son peuple. Amen. Alors pour conclure, j'ai apporté cette méditation pour nous. Ce n'est plus pour le peuple d'Israël, c'est pour nous aujourd'hui. Mais la Bible ou bien les Écritures sont là pour nous encourager et qu'on puisse apprendre de ce qui s'est passé à nos ancêtres pour aussi appliquer cela dans notre vie de tous les jours. Il nous arrive même dans la vie que on se demande comment, pourquoi. Pourquoi cela nous arrive? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi j'ai tant prié, mais cela ne se réalise? Pourquoi Dieu m'avait promis de telles choses, mais je vois là le contraire? Parce que vous savez, à chaque fois quand nous prions, nous voulons que les choses aillent dans notre façon, aillent dans, selon notre volonté. Mais il arrive que souvent nous trouvons le contraire. Et là, nous demandons, nous nous posons des questions. Des fois, nous nous plaignons aussi contre Dieu. Mais j'ai apporté ce message pour nous dire à tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles, qui voient leur vie se détruire, qui voient leurs projets tomber à l'eau, qui voient leur situation, qui vivent la misère, comme le peuple de Juda vivait la misère à ce moment. Mais comme Jérémie a trouvé une raison d'espérer, de garder confiance, alléluia, nous aussi aujourd'hui, dans ta situation, dans ma situation, je peux le trouver mille et une raisons de garder confiance en Dieu. Amen. Il y en a, je ne vais pas demander à tout le monde de me donner une. Mais je sais que vous en avez pas mal. Sauf que quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans le trouble, l'ennemi fait en sorte qu'on oublie tout. C'est comme si j'ai entendu un serviteur de Dieu qui donnait l'exemple. Il disait, ça me fait rire à chaque fois que je pense à ça. Il disait, l'homme est créé de façon que quand il a faim, quand il a faim, il pense qu'il n'a jamais mangé dans sa vie. Donc c'est comme ça. Et quand il est rassasié, c'est comme s'il n'a jamais. Il fait dans sa vie. C'est comme ça. Et des fois, quand nous sommes dans la situation qui nous complique la vie, la situation de détresse, on oublie tous les bienfaits que Dieu a fait. On oublie que même Dieu est amour. Dieu a dit que je serai avec. Donc, on se sent seul, mais souvent, c'est l'attaque de l'ennemi qui veut nous montrer que non, Dieu est infidèle. Il n'est pas fidèle à sa parole. Le gars, il t'a abandonné. Il t'a laissé dans cette situation. Et souvent, si on regarde très bien, on verra que des fois, ce que nous subissons, ce ne sont que des conséquences de nos agissements. Le peuple d'Israël avait commis tant de fautes, mais par la suite, ils se demandaient pourquoi Dieu a fait ça. Et si vous lisez le livre de Jérémie et même les cinq livres de Moïse, là, vous allez voir comment à chaque Dieu n'a jamais surpris avec les punitions. Dieu n'a pas puni son peuple comme ça, d'une façon improvisée. À chaque fois, il y avait des prophètes qu'il envoyait pour avertir le peuple. Encore, il envoie un, il envoie un autre. Donc, c'était vraiment je dirais, par manque de choses, ou bien par impatience que Dieu agissait, que Dieu punissait son peuple. Juste pour vous dire que l'amour de Dieu est là, même dans la situation où nous nous retrouvons. Amen. Pour vous dire que ne perdez pas confiance, Dieu est là. Là où je travaille aujourd'hui, je travaille avec les personnes âgées. Une fois, j'ai était avec une personne âgée 92 ans. Et puis je le voyais, il était couché, il me dit, d'habitude il crie souvent, il ne veut pas voir personne. Mais ce jour-là, il a dit, tu sais, j'avais rien dit. Il a dit, quand il m'a vu, il a dit, tu sais, Il faut toujours garder l'espoir. À ses propres mots, j'ai été étonné parce que d'habitude, j'ai commencé à me dire, est-ce qu'il était chrétien avant? Est-ce qu'il était... Il répète encore, il faut garder l'espoir. Et là, j'ai profité, j'ai dit, OK, peut-être c'est une occasion, je vais lui parler un peu. Et on a discuté. Malgré la situation de vie, de santé, mais je l'ai encouragé, j'ai dit oui. C'est même à chaque fois que je le vois, je dis, tu m'as dit qu'il ne faut jamais perdre l'espoir. Je le rappelle souvent. Donc, malgré la situation dans laquelle il était, je ne sais pas si c'est Dieu qui voulait peut-être me parler à travers lui, mais il sait lui, il sait qu'aussi, il ne faut jamais perdre l'espoir. Parce que quand nous perdons l'espoir, déjà, l'ennemi nous a pris. L'ennemi nous a déjà trouvés. C'est ça, c'est le fonctionnement. C'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Donc, il commence par nous faire penser que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous a punis infidèlement. Mais comme le prophète Jérémie a dit, nous avons, j'ai ma raison, voici ma raison d'espérer, c'est que les bontés du Seigneur n'en sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère à lui. Ce matin, regarde dans ton passé, regarde tout ce que tu traverses, mais regarde aussi ton passé. Tu vas voir la main de Dieu derrière. Tu vas voir que Dieu a fait des choses. Et cela va te pousser à croire que même après cette dérive, après cette situation, Dieu est là encore. Dieu va faire encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour clôturer. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ton message. Le message, tu nous rappelles que tu es là, que ton amour n'est pas épuisé, que tu es toujours pour nous, même si de temps en temps nous nous retrouvons dans des situations dans lesquelles nous nous pensions être, mais tu ne nous abandonnes jamais. Tu es toujours là pour nous. Seigneur, si tu nous envoies ce message, c'est pour encourager toutes ces personnes, Seigneur, qui traversent des moments difficiles, qui se voient seules dans leur situation, qui se demandent pourquoi cela est arrivé, qui se demandent pourquoi tu les as punis ainsi. Mais Seigneur, je prie qu'à ce moment, pendant que ce message passe, que nous nous réalisons et que Seigneur, nous retrouvons une seule raison d'espérer en toi. Oui. Il y en a sans doute, il y en a beaucoup plus, mais fais à ce que nous retrouvions une raison d'être à tes côtés, de rester, de garder confiance en toi. Parce que tu es le seul Dieu à qui on peut se confier. Merci Seigneur. Merci pour le message. Je sais que le Saint-Esprit est parmi nous pour nous enseigner un peu plus. Je te bénis Seigneur. Bénis ce peuple. Bénis tout ce qu'ils ont entendu et tout ce qu'ils vont entendre ce message plus tard. Et que Seigneur, ce message puisse produire l'effet positif dans notre vie, dans la vie de tous les jours. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.